Interview.
Bonjour, ici Air du Bois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 sur Luc Andiwa. Les émissions sont aussi mises en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Gudrun Mattes. Bonjour.
Bonjour.
Et de Connie Baker. Bonjour.
Bonjour.
Toutes deux, vous êtes membres de coordinatrices aussi de Matrimoine Andiwa, en quelque sorte, qui n'est pas une association, mais plutôt un groupe de personnes désireuses de promouvoir aussi la condition féminine, j'imagine.
L'héritage des femmes dans le Andiwa, surtout.
Et en fait, comme tu as dit, Matrimoine Andiwa, ce n'est pas une asso, mais porté par une association qui fait des projets dans tous les domaines culturels. Et c'est l'association Le Paradoxe du Singe Savant. Du coup, nous, on est un projet pour visibiliser l'héritage culturel des femmes. Juste pour en parler aussi. Ce n'est pas une opposition au patrimoine et au héritage patrimonial de hommes, mais on veut juste un peu équilibrer les choses.
On peut faire un petit rappel aussi de Matrimoine Andiwa. C'est un mouvement qui est né il y a quelques années et qui permet aussi des manifestations dans les rues de Die, notamment avec des expositions de photographies, notamment, et puis d'autres événements liés à cette idée, par des spectacles ou des rencontres, des tables rondes aussi.
Oui, en fait, nous, on a commencé il y a 2 ans et demi. Et c'était vraiment pas la bonne période pour organiser quelque chose de culturel. Mais on a quand même fait 2 fois les journées de matrimoine, parce que c'est comme ça que le projet est né. Il y a un grand groupe de femmes dans le nord de la France, Normandie, si je ne me trompe pas, qui ont commencé initier ces journées de matrimoine, en même temps des journées européennes de patrimoine qui ont lieu mi-septembre. Nous, on a commencé ça dans le Diwa il y a 3 ans, mais il y a 2 ans, on a fait vraiment avec ce groupe. Et dans ce cadre, il y avait des grandes affiches, des affiches énormes qu'on a mis dans la ville pour montrer des femmes dans la culture qu'il ne faut pas oublier. Il y avait une expo au Cave Girard avec deux artistes locales, Stéphanie Caillot et Lynn Pock. Et l'année dernière, on a eu un grand événement Place de la Comtesse, avec un premier rendu de ce qu'on a fait jusqu'à ce moment-là, pour montrer les plusieurs volets de notre recherche, parce qu'on fait justement plusieurs choses. Il y a un volet recherche, chercheuse, comme Gudrun qui est là. Après, il y a des actions culturelles, des expos, où moi, je suis plus active. Et on a montré les premiers résultats des chercheuses l'année dernière. Et cette année, c'est l'année Yvonne Audon. Et Gudrun, voilà, peut dire pourquoi.
Voilà, donc effectivement, vous donnez rendez-vous au public ce 18 juin à Minglon pour organiser une marche autour d'un titre, Il fallait marcher. D'ailleurs, ça, on pourra peut-être un peu expliquer ce titre. Gudrun, justement, toi, tu t'es attelée à une recherche biographique de Yvonne Audon depuis pas mal de temps. Et donc là, c'est une des conséquences de cette recherche que tu as pratiquée.
Oui, il faut savoir que cette année 2022, en fait, est l'anniversaire et la naissance de Yvonne Audon, qui est née en 1902 et mort en 1982. Donc, c'était vraiment l'année où il fallait faire quelque chose pour que le souvenir de cette femme extraordinaire vive et reste.
Qu'est-ce qui vous a amené justement à vous intéresser à Yvonne Audon en particulier ?
J'ai découvert Yvonne Audon dans le cadre justement du travail de matrimoine en Diwa. Lorsque j'ai rejoint le groupe, il y avait déjà un premier listing. Il y avait cette combinaison de lieux et de noms, Manglan et Yvonne Audon. Donc ça m'a intriguée parce que moi-même j'habite à Manglan et je savais, mais très vaguement, que Yvonne Audon c'était une résistante importante de la première heure, dont la famille est originaire du Diwa de Manglan tout particulièrement. Donc ça c'était le début et ensuite très vite je me suis rendu compte et donc ça c'était un peu consternant de constater un décalage énorme entre l'importance objective du personnage et un manque de notoriété aussi incroyable en fait et de la part du grand public et ce qui est encore plus étonnant de la part de la recherche.
Et les représentations aussi officielles n'ont pas forcément relayé cette personne dans les commémorations, j'imagine.
Jusqu'à maintenant, donc il y avait très peu. Donc Yvonne Audon, c'était une bibliothécaire très reconnue, avant-gardiste, qui a travaillé au Musée de l'Homme. C'est là où il a initié le groupe de résistance. Après sa mort, le musée a appelé sa bibliothèque « Bibliothèque de recherche Yvonne Audon ». Sinon, il y a une petite ville à Aubervilliers, mais ensuite, il n'y a absolument rien qui rappelle son nom. Ni au niveau national, ni dans le Diwa, nulle part. Il y a une petite plaque maintenant à la médiathèque de Die. Parce que déjà en 2002, il y avait... un événement de commémoration, exactement, où même Monsieur Abouninck, donc grand responsable de la résistance du Haut-Diwa, s'est engagé, énormément engagé, pour que le Yvonne Audon soit reconnu à sa valeur. Et donc là, de cette initiative est née une plaque de bronze qui était mis à la médiathèque. Apparemment, on ne pouvait pas appeler la médiathèque Yvonne Audon. Bon, pour les raisons administratives, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais on a eu cette plaque-là. Cette plaque a été enlevée lorsque la médiathèque a été rénovée. Mais maintenant, c'est remis.
Vous parliez donc de cette bibliothèque Yvonne Audon, au Musée de l'Homme. Quelles étaient ses recherches ?
Yvonne Audon était bibliothécaire. Donc, ce n'est pas elle qui était directement dans les recherches ethnologiques, mais elle a beaucoup, beaucoup contribué à ce que les recherches ethnographiques ont pu se dérouler dans de bonnes conditions. Elle était en contact avec beaucoup de très grands chercheurs comme Alfred Métro, comme Michel Léris, tous ceux qui étaient associés dans les années 30 au Musée de l'Homme. Et évidemment, son directeur, Paul Rivet, qui a énormément contribué à faire évoluer cette discipline.
Vous parliez de Michel Léris. Est-ce qu'elle était en contact aussi avec beaucoup d'auteurs de cette époque ?
Bah, surtout avec les chercheurs hein, qui étaient directement engagés en ethnologie. Donc, lorsqu'elle a, après ses études, rejoint le Musée de l'Homme et était responsable tout de suite de la, à cause de ses compétences de sa bibliothèque, donc elle a tout fait pour que donc, la recherche puisse se faire en, en bonnes conditions. Elle a entièrement repris la classification qui était complètement nouvelle à cette époque-là. La classification décimale ou Dewey, comme on l'appelle. Et elle a pris des cours d'ethnologie aussi à cette époque-là pour être compétente, mais aussi pour s'occuper de, des livres, des fonds qu'elle a donc élargis.
Il fallait marcher, vous proposez une marche hein, aux personnes qui viendront. Il fallait marcher, ce titre, il est issu d'un de ces textes ?
Tout à fait. Déjà, il faut connaître un petit peu la, la personnalité d'Yvonne Audan qui était toujours en mouvement. Donc elle n'a pas écrit beaucoup de choses, mais elle était toujours en action, toujours en mouvement. Et elle a prononcé cette phrase plusieurs fois dans la conférence de Châtillon. C'est une des rares conférences qu'elle a données juste après la guerre, lorsqu'elle est venue dans le Diois pour se ressourcer. Là, donc le 25 août 1945, elle a donné cette conférence à Châtillon en Diois sur la résistance, sur ses motivations d'organiser la résistance. Et cette phrase est particulièrement marquante.
C'était la principale activité des résistants à l'époque, de déambuler dans les terres, les reliefs aussi du Diois.
Donc là, ça n'a rien à voir. Ça se réfère à sa résistance à Paris. Donc ils avaient trois axes d'action. C'était aider des gens qui avaient besoin de quitter le pays. Donc il y avait de très très grands réseaux d'extraction des gens. Il y avait la propagande anti-nazie et contre la collaboration et le renseignement civil et militaire. Donc là, ils étaient très actifs dans ces trois secteurs. Et je dis un des tout premiers, sinon le premier réseau de résistance de la société civile. Quelque chose qu'ils ont fait vraiment tout seuls, sans aucune aide, dans une situation à l'époque assez désespérée tout de suite après la débâcle.
Cette période justement de résistance, elle l'a principalement vécue à Paris à ce moment-là.
Oui, tout à fait.
Et donc ensuite, à la libération en 1945, elle est venue ici dans le Diois, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Et quelle a été sa démarche à ce moment-là ? Est-ce qu'elle a continué dans cette activité ? Bon, elle est bibliothécaire. Elle a toujours continué ensuite à être bibliothécaire ou alors elle s'est dirigée vers d'autres passions ou activités ?
Les deux. Alors, elle a repris son service au Musée de l'Homme en 1946. Donc c'était un peu difficile de continuer à travailler dans des conditions et dans un lieu qui était lieu de tant de souvenirs. Et on lui a proposé très vite de reprendre d'autres responsabilités au nouveau centre muséologique de l'UNESCO. Et donc là, elle a travaillé pour la base de données de cette institution-là, qu'elle a entièrement établie, toujours selon les mêmes règles du système de Dewey, mais qu'elle a adapté et élargi. Elle a aussi participé au journal de cette institution. Qui s'appelle donc Nouvelle de ICOM News en anglais. Et elle a fait aussi pas mal de missions au nom de l'UNESCO.
Mais peut-être on pourrait préciser quand même un peu ce qu'elle a fait en tant que résistante du groupe de Musée de l'Homme, parce que c'était quand même pas rien et on est un peu contourné autour. pourquoi voilà, les souvenirs ils ont été douloureux quand elle est retournée à la bibliothèque. C'était justement parce que elle a perdu des amis, en particulier son compagnon. Et peut-être Gudrun pourrait préciser un peu dans son rôle dans la résistance.
D'où ce besoin de venir dans le Diwa, peut-être se reposer et puis de se ressourcer.
Déjà, la famille était dans le Diwa, donc il fallait absolument qu'elle reprenne des forces parce qu'elle est passée par plusieurs prisons et deux camps de concentration. Et lorsqu'elle est revenue, elle ne pesait que 25 kilos. Donc on s'imagine, c'était une petite personne, certes, mais quand même, elle était extrêmement affaiblie.
Connie, je reviens vers toi. Il me semble que des artistes ont traité de Yvonne Audon dans tes ateliers.
Oui, c'est vrai. En fait, vu que je fais aussi des résidences, c'est un programme de résidence d'artistes, plasticiens, surtout en été, quand il fait beau. J'ai eu l'année dernière deux photographes qui ont fait un projet, qui ont fait des recherches sur la résistance. Ils ont eu cette idée avant de venir et ils voulaient faire des recherches sur une résistante allemande. Et je leur ai dit que, voilà, ici, le Vercors, c'était un grand lieu de résistance. Du coup, ils ont particulièrement travaillé sur la résistance de Vercors, mais aussi sur Yvonne Audon, parce que j'ai introduit aussi des artistes à Gudrun, ils ont parlé de Yvonne Audon, ils ont dédié une, une photo à Yvonne Audon, et c'est justement c'est une action qui les a vraiment touchés parce que lorsqu'elle était imprisonnée, Yvonne Audon, elle a continué de travailler comme résistante, si on veut. En fait, elle a caché des petites notes écrites sur des mouchoirs en tissu dans la gelée de son jupe.
L'ourlet de son jupe.
Et en fait, lorsque sa sœur est venue pour laver sa linge une fois par semaine, elle pouvait trouver ces informations, même si ça n'a pas marché tout de suite. Mais en fait, elle était toujours active, même en prison. Du coup, elle a résisté jusqu'à, voilà, elle a continué de résister.
Je voulais revenir aussi un peu sur son rôle, parce qu'il faut savoir que sa bibliothèque, qui était toujours ouverte à l'époque de l'occupation, était une sorte de plateforme où les informations tournaient, où elle prenait en charge certaines personnes, transmettait des documents importants. Elle était à l'origine, à l'initiative de ce groupe-là. Ensuite, sont d'autres personnes, certes des personnes importantes qui sont greffées dessus, notamment Boris Vildé et Anatole Levitsky. Et par la suite, dans la recherche, on ne retrouve que ces noms-là. Donc Boris Vildé, Anatole Levitsky, d'autres aussi, donc pour les gens qui sont beaucoup plus renseignés. Mais ce sont surtout ces deux noms-là. Or, selon mes recherches, Yvonne Audon, c'était la troisième du groupe. C'était une sorte de trio qui formait la tête de ce réseau, qui comportait quand même plusieurs centaines de personnes à la fin. Or, donc, elle et son rôle est complètement, ou presque complètement oublié par la recherche et, comment dire, par la reconnaissance officielle.
Vous avez essayé de trouver une explication à cet effacement, en quelque sorte, d'Yvonne Audon ?
Il y en a plusieurs. D'abord, c'est vrai qu'après la guerre, elle était très discrète, voire secrète, concernant sa vie privée. Mais elle n'était pas la personne, comme d'autres personnes, qui pouvait absolument pas parler de ses expériences. Elle a donné deux conférences. Mais elle voulait garder la main sur ses souvenirs Des amis très proches et son compagnon ont été fusillés au Mont Valérien quand même en février 42. Mais quand on dit discret, ça ne veut pas dire effacé. Elle était tout autre chose qu'une personne effacée. Au contraire, elle avait un sacré caractère. Et normalement, lorsqu'elle voulait quelque chose, elle a reçu. Elle a décrit ce qu'elle a fait, mais elle ne s'est pas mise en avant. Elle a parlé comme Wilde, comme chef, comme Levitsky, son second. Ensuite, elle a décrit ce qu'elle avait fait, mais elle n'a jamais dit explicitement « moi, j'étais la troisième personne ». Et ensuite, la recherche a repris ça. Et petit à petit, ça s'est perdu. Il faut peut-être aussi parler du statut des résistantes juste après la guerre, qu'on a oublié assez longtemps. Et il fallait attendre que les chercheuses même s'occupent de ça. Mais on a perdu un temps incroyable, hein, parce que beaucoup de témoignages étaient déjà perdus. Voilà, donc ça, il y a plusieurs raisons et jusqu'à maintenant, il faut dire, il n'y a aucune monographie sur Yvonne Audin. Il y a énormément sur Germaine Tillion, il y a plusieurs études sur le Musée de l'Homme, sur d'autres personnages, mais il n'y a strictement rien sur Yvonne Audin.
Ce samedi 18 juin, il y aura une déambulation commémorative en hommage à Yvonne Audin, donc, pour retracer sa vie et ses engagements de bibliothèque et résistante. Ce que je voulais savoir, c'est donc ça se déroulera aux alentours des Payas.
Oui, au Payas.
Au Payas.
Oui, au Payas.
Un petit itinéraire qui est prévu d'environ 1h30, c'est ça, hein ?
C'est ça.
Alors, pendant ce moment, il y aura juste cette marche ou alors il y aura des coups d'arrêt aussi, des moments où il y aura de l'expression ?
Non, le sens, c'est quand même de retracer la vie d'Yvonne Audin. Donc, on commence à l'entrée des Payas où Yvonne Audin a été accueillie après la guerre. Elle était accueillie en fanfare par la population de Minglon. L'entrée des Payas, c'est là où il y avait la maison familiale. Il y a quelqu'un avait peint une croix lorraine et il y avait la musique. Les enfants de l'école des Biala sont venus et ont chanté. Voilà, c'est un petit peu un lieu symbolique. C'est pour ça qu'on commence là. On raconte cet épisode. Ensuite, on va continuer vers la maison familiale. On va raconter tout ce qu'elle a fait en tant que bibliothécaire. Elle avait une vision très sociale de ce que devrait être donc une bibliothèque et une bibliothécaire. Et de suite, donc, on raconte donc toutes les étapes de sa vie. On s'arrête chaque fois pour 7 minutes, 10 minutes pour montrer ça, pour illustrer ça. Et donc, à la fin, on se pose sur un terrain on va écouter une musique, une pièce musicale composée en son honneur. Et donc,
par Kate Fletcher. Oui, mm-hmm. Qui fait partie du groupe et qui a initié aussi le groupe avec d'autres.
Et ensuite, on prendra un apéro offert par la mairie de Minglon.
À propos de cette déambulation, il y aura aussi le partenariat de la Buenaventure avec ces joaillettes qui proposeront leurs services pour des personnes qui auront certaines difficultés à se déplacer.
Oui, justement, parce que les gens, c'est sûrement aussi des gens un peu âgés qui vont être intéressés par cette proposition. Et du coup, on est tombé carrément sur ce partenariat parce que Buenaventure, ils sont aussi à Minglon et c'est les habitants de Minglon qui co-organisent aussi l'événement et du coup c'est venu assez naturellement.
Ils sont passionnés pour le projet aussi.
Ouais, ouais. Et du coup, si quelqu'un voudrait participer, mais pas à l'aise de marcher une heure et demie. On pourrait déjà aussi réserver une joëlette. Est-ce que je donne le numéro de Benjamin?
Oui, on peut le citer là, maintenant. Ouais. Je le remettrai sur la page du site aussi.
Oui, super. Alors, du coup, ça serait Benjamin pour l'association Bonaventure. 06 67 32 46 84. Et pour tous les autres, c'est quand même, comme c'est une déambulation, ça serait bien d'avoir des bonnes chaussures et une protection solaire et le chapeau. Et peut-être aussi pour les gens déjà un peu âgés, je veux dire, une petite chaise ou tabouret pliante. Pour s'asseoir pendant les arrêts, pour écouter le petit discours.
Je voulais souligner aussi la bonne entente avec la famille Audon. C'était essentiel pour notre projet qu'ils nous permettent de cette action-là. C'était essentiel qu'ils participent et soient d'accord avec ce qu'on fait.
La famille Audon-Réfine.
Oui, Réfine.
Et puis, il y a le soutien de la mairie de Maglon pour couvrir aussi cet événement.
Oui. Comme on a dit, là, il nous propose un apéro. C'est très gentil, on est content de cette coopération, de soutien.
Je voulais parler aussi d'un autre projet parce qu'il y a aussi les enfants de Minglan qui sont très actifs pour Yvonne Audon. C'est carrément un week-end Yvonne Audon parce que le vendredi, ils vont présenter leur projet de fresque sur Yvonne Audon pour l'école de Minglan à la salle du conseil. Et à inviter la population de Minglan pour regarder cette proposition. Et il y a aussi des enfants qui vont participer à la déambulation et chanter comme les enfants l'ont fait lorsque, en 45, ils ont accueilli Yvonne Audon.
Cette intervention des enfants et de cette fresque, qui anime cette activité?
C'est un projet de l'éducation nationale, quand même, que... Il y a maintenant 2 ans, j'ai parlé la première fois avec l'institutrice Isabelle Chafois, qui est une institutrice absolument extraordinaire et qui a tout de suite compris le potentiel pédagogique et on a conçu ensemble un projet et elle a mis ça en place. Donc elle s'est mise d'accord avec pour avoir un soutien de l'éducation nationale. On travaille avec 2 artistes de Barnave qui ce sont des enfants.
Je vais dire leur nom pour visibiliser leur rôle. C'est Lucie Chaumont et Nadine Alibert qui ont été comme duo perruque, la perruque aussi de dance.
Et il y a une pièce de théâtre également en projet.
Oui, c'est une pièce conçue par l'actrice et réalisatrice Véronique Joly qui a découvert Yvonne Audon et ensuite on était en longue discussion et elle aussi avait en vue le potentiel artistique, ce que donnent les épisodes de sa vie. On travaille depuis pas mal de temps ensemble aussi et elle est à la recherche de subventions, mais donc la pièce est en train de se concevoir et elle aussi va participer à la déambulation.
Il existe très peu de décrits d'Yvonne Audon. On peut le comprendre aussi encore plus sous l'occupation d'éviter d'avoir des traces écrites de quoi que ce soit. Elle ne pouvait pas tenir un journal notamment.
Là, très peu de personnes...
Il existe très peu de textes. Qu'est-ce qui est abordable de nos jours de ces écrits?
Elle-même, elle a écrit quelques textes dans le cadre de lorsque le groupe du musée de l'homme a été homologué par Germaine Tillion. Elle a aidé pas mal Germaine Tillion aussi. Il y a deux conférences, le texte et deux conférences. Il y a quelques lettres, quelques idées qu'elle a mises sous papier et c'est tout.
D'ailleurs, en parlant de conférences, il y en a eu deux ultérieurement, une au 1er avril et puis une tout récemment encore. C'était justement des conférences d'Yvonne Audon qui ont été lues ou c'était plutôt des recherches ?
Non, c'était la présentation de mes recherches, c'est-à-dire le 1er avril, c'était clairement ça. Le 4 juin, donc la médiathèque, c'était juste une contribution, donc un résumé de sa vie pour compléter les auteurs de la BD Les Vivants qui se sont occupés du groupe du Musée de l'Homme.
Matrimoine en Diwa, d'autres rendez-vous dans les prochains temps prévus ?
Après qu'on a fait un grand événement l'année dernière, et c'est un peu difficile pour des femmes qui ont des enfants, et en été, tout le monde est parti. On s'est dit septembre, ça va être un peu plus léger cette année-ci, mais on va présenter quand même un peu de notre recherche, de notre travail, et essentiellement, ça va être des capsules sonores qui vont être... avec Caroline Fontana qui a fait des entretiens avec les différentes chercheuses de notre groupe sur leur sujet du coup on aurait quand même une visibilité ça va être le grand expo comme l'année dernière. Mais on va faire quelque chose.
C'était un beau succès quand même ce rendez-vous. Il y avait beaucoup de monde sur ce petit square de la Comtesse.
Oui.
Est-ce que vous envisageriez, peut-être pas cette année, mais de donner un rendez-vous régulier dans ce type d'événement et peut-être vous intéresser à d'autres personnes, d'autres femmes qui ont été des personnalités du Diwa ?
C'est en cours. C'est juste, on est quand même un groupe plutôt bénévole. On a une fondation. En fait, on est soutenu par la région Aura dans le cadre du dispositif Mémoire du XXe siècle. Et par le département de la Drôme. Et c'est super. La fondation Un Monde Partout aussi nous a suivi un peu. C'est juste, en fait, on ne peut pas faire tout. Et c'est pour ça aussi qu'on essaie de sensibiliser le plus les gens avec qui on travaille, nos partenaires, comme tout le monde, la mairie des Augusta, en fait, les gens qui sont, de toute façon, ils ont des... que tout le monde est un peu plus sensibilisé aux femmes et de pas oublier les femmes justement.
Et notamment, on travaille sur un état des lieux des noms de rues dans Di et dans le Diwa. Et donc c'est un projet en cours et qui va être proposé à pas mal de partenaires pour voir comment continuer. Mais a priori, nous, on est en projet, pas une association, pas encore une association à long terme. Donc a priori, le projet se finit l'année prochaine, mais des réflexions sont en cours, comment continuer, sous quelle forme et avec quelle priorité.
Oui, et en fait, c'est, on a prévu aussi de faire une sorte de résidence participative ou une recherche participative au théâtre pour justement aborder cette question et pour voir comment ça peut continuer même après notre groupe peut-être.
Eh bien, Gudrun Mattes et Connie Baker, je vous remercie toutes les deux d'être venues nous parler donc de Il fallait marcher, un hommage à Yvonne Audon qui aura lieu à Minglon le 18 juin 2022. C'est à partir de quelle heure d'ailleurs ?
À partir de 17h, donc à l'entrée des Payas, et tout le monde est chaleureusement invité.
Et pensez à prendre une gourde d'eau en arrêt à boire aussi, mais il risque de faire chaud.
Et une ombrelle. Alors.
Et oui, c'est ça.
Avant de nous quitter, on peut indiquer aux auditeurs sur Internet quels sont les moyens de s'informer.
Les informations sur l'événement, ils sont aussi sur notre site matrimoneandivois.fr et du coup, on peut retrouver toutes les infos. Du coup, à samedi.
Bientôt, oui.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir.
Sunday morning, starry, rainy, cloudy sky. Someday soony, you'll disappear and I. No more rainbows, no more rainbows. Sunday moony, starry, rainy, cloudy sky. Rainy, cloudy sky, Sunday soony, you.